pour aujourd'hui, donc, nous continuons de parcourir les textes que l'on propose en général pour les mariages ou les baptêmes. Alors, bizarrement, ce texte très connu, ce passage très connu de l'Évangile de Jean, eh bien, je n'ai jamais prêché dessus. Pourtant, vous savez bien, je suis quand même une spécialiste des femmes de la Bible, et bien celle-là, finalement, j'étais passée à côté. Donc voici le récit de la Samaritaine qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4. Et je vais vous lire les versets 5 à 30. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel, au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répond, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donne, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donne deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir à puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari, reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent des disciples qui s'étonnaient de le voir parler à une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Et enfin, toujours dans l'Évangile de Jean, deux versets, les versets 37 et 38 au chapitre 7. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. » Alors l'histoire de la rencontre entre Jésus et cette femme est bien connue. Et même ceux qui ne sont pas familiers de la Bible en ont déjà entendu parler. Tous ceux également qui fréquentent plus ou moins régulièrement les musées, l'ont déjà croisé. Bien des amoureux de la Bible se sont penchés sur cet épisode qui nous fait découvrir un Jésus correspondant bien à nos attentes. Il est doux, il est finalement bienveillant. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas toujours le cas dans les évangiles. Il est souvent très rude avec ses proches, particulièrement avec les disciples. D'ailleurs, là, il va envoyer plus ou moins balader ses disciples juste après. Il est souvent agacé. Et l'épisode bien connu où il chasse les marchands du temple nous rappelle qu'il peut parfois piquer des grosses colères. Mais ici, tout est contraire. Nous entendons bien combien son attitude, son discours vont permettre de résoudre une situation qui aurait pu être conflictuelle, de résoudre aussi une situation de conflit religieux, de l'aplanir. Et cet échange, d'ailleurs, est un vrai parcours de reconnaissance, dans les deux sens du terme. Apprendre à se connaître, à se reconnaître, à reconnaître l'autre, mais aussi, on le voit bien pour la femme, à se reconnaître soi-même. Et aussi la reconnaissance dans le sens de rendre grâce, remercier, parce que nous sommes nous ceux qui recevons aujourd'hui cette parole, cette lecture, eh bien nous pouvons en être reconnaissants. Car en quelque sorte, elle va faire jaillir cette eau vive que le Christ promet à la femme. Elle va faire jaillir cette eau vive en nous-mêmes. Au début, il s'agit bien donc de méconnaissance, de méfiance qui règne. Donc c'est également un parcours de la mésentente à l'écoute et de la défiance à la confiance. Mais c'est ce que nous allons essayer de voir et nous allons y aller presque pas à pas. J'aimerais, avant tout, rappeler le contexte dans lequel intervient notre histoire, parce que ce récit s'enracine dans une tradition biblique très forte. Des puits, il y en a de nombreux. Des rencontres autour des puits, il y en a aussi de nombreuses, particulièrement dans le livre de la Genèse. Et il y a à la fois une lecture littérale et une lecture symbolique que nous ne pouvons ignorer. Mais avant donc cette lecture symbolique, il ne faut pas oublier que la Bible a été écrite dans un pays, la Palestine, la Jordanie, voire même l'Égypte, dans ces pays où l'eau est rare, où elle est précieuse, où creuser un puits, eh bien c'est une question de vie ou de mort. Au milieu de ces déserts, l'eau a été, et demeure encore aujourd'hui d'ailleurs, véritablement la source et l'essence de la vie. Et la possession d'un puits est fondamentale, bien sûr pour la vie, mais également pour asseoir sa position de leadership, c'est ce que vont faire les patriarches, pour asseoir ses possessions. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on nous raconte tant de récits où les patriarches creusent et défendent leurs puits. Les puits, c'est également un lieu de rencontre. On y abreuve les bêtes et on y puise de l'eau. L'eau a aussi, évidemment, dans la Bible, toute une valeur métaphorique. L'eau, c'est la Torah, c'est l'enseignement de Dieu, c'est presque la parole de Dieu. Et le puits, d'ailleurs, est toujours un élément positif. Le puits auquel l'eau est puisée, c'est un puits d'eau vive. Et ça, c'est pour ça que j'aimerais insister là-dessus. C'est un puits qui est soit une source entourée de pierres, soit une nappe phréatique, alors là c'est probablement le cas puisqu'on nous dit qu'il est profond, et donc c'est un puits qui se rattache à de l'eau et à de l'eau potable. C'est quelque chose à mon avis d'essentiel. Il ne s'agit pas de ces citernes que l'on rencontre aussi dans la Bible et d'ailleurs que l'on rencontre aussi dans l'Orient ancien. On le voit, je ne sais pas si vous êtes allé à Petra, on voit bien ces citernes et même ces endroits où on récolte l'eau de la rosée, tellement l'eau est précieuse. Mais ces citernes, on rencontre l'eau de pluie et l'eau de pluie, elle finit par s'abîmer, par croupir. Elle n'est presque impropre à la consommation. Tandis que l'eau du puits est là pour désaltérer. L'eau du puits, eh bien, ce puits, il représente la source de pureté et de fécondité. Il est symboliquement la source d'inspiration émanant de l'esprit divin. C'est probablement d'ailleurs pour cela que l'auteur fait allusion à la source de Jacob. Alors cette source de Jacob, eh bien, vous pouvez chercher dans l'Ancien Testament, vous ne la trouverez pas. Certes, Jacob a trouvé sa femme autour d'un puits, mais ça, à 1000 kilomètres plus au nord pratiquement que là où se situe la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Mais cette référence au puits de Jacob nous dit que ces puits des patriarches étaient des puits creusés à main d'homme et qui étaient là pour aller chercher de l'eau potable, de l'eau vive, comme on dit, de l'eau vivifiante. Et cela, cette référence aussi à Jacob, nous montre que finalement, les Samaritains et les Juifs avaient des ancêtres communs. Alors, ils avaient peut-être des raisons de se mépriser. Vous savez, les Juifs reprochaient aux Samaritains de s'être mélangés avec les populations locales, de ne pas pratiquer le bon culte, parce que, on l'entend bien, ils vont prier sur le mont Garizim et non pas à Jérusalem. Et puis, ils n'ont qu'une partie de la Torah et pas toutes les Écritures. Mais bon, en fait, ils ont pourtant les mêmes ancêtres et en réalité la même religion. Mais on le sait bien, on peut avoir les mêmes ancêtres et la même religion et se mépriser, voire se détester. Mais ici, on nous rappelle que Jacob est l'ancêtre commun. Mais pour en revenir au puits, il y a un passage dans le prophète Jérémie où on voit que le puits est l'image même de Dieu. Lorsque Jérémie, par la bouche de Jérémie, Dieu parle et dit: car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne tiennent pas l'eau. Ainsi, Dieu se présente comme la source d'eau vive. De nombreuses rencontres se font aussi autour d'un puits. Particulièrement dans le livre de la Genèse, il y a d'abord le puits d'Agar. Agar, la servante de Sarah et d'Abraham, qui va être chassée dans le désert. Eh bien, c'est au bord du puits qu'elle va rencontrer l'ange, cet ange qui lui annonce la naissance de son fils Ismaël, et cet ange aussi qui lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ensuite, il y a toutes ces histoires d'alliance autour des puits, et particulièrement ces histoires d'amour qui se passent autour des puits. Des mariages sont conclus au bord du puits. Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel. Et puis au début du livre de l'Exode, c'est là aussi que Moïse va rencontrer sa femme, Tsipora. Ainsi, c'est des lieux profondément symboliques. Ce n'est pas pour rien que les patriarches trouvent leurs femmes autour d'un puits, lieu de rencontre sociale, mais aussi lieu d'où émerge la féminité. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel aussi et qu'on doit avoir en tête. D'ailleurs, c'est bien une femme qui vient puiser l'eau et c'est les femmes qui puisent l'eau d'une manière générale. Et c'est naturellement que la Samaritaine vient puiser l'eau et apparaît dans notre récit. Elle vient au-devant de Jésus. Ce qui est bien moins naturel, c'est l'heure à laquelle tout se passe, la 6e heure, aux environs, c'est-à-dire aux environs de midi. Et dans ce pays, les environs de midi, c'est le plein gagnard. C'est l'heure la plus chaude, l'heure où tout le monde rentre, se cache, se met à l'abri, à l'ombre de sa demeure. La vie ne reprendra que plus tard, lorsque le soleil commence à décliner. Pourtant, cette femme sort. Elle est mise en pleine lumière. Et c'est assez paradoxal, parce que c'est alors qu'elle est en pleine lumière qu'elle se cache des autres. Vous savez, le texte biblique est souvent à lire dans le paradoxe, et je pense qu'il y en a de nombreux dans ce passage, dans ce qui se dit entre Jésus et la femme. Si elle sort à midi, c'est bien justement parce qu'elle ne risque pas trop de croiser quiconque. Évidemment, vous l'avez entendu, elle n'a pas une vie elle a une mauvaise vie, elle est une femme de mauvaise vie, en tout cas c'est comme ça qu'elle doit se juger. Elle a eu 5 maris, on ne nous dit pas les raisons pour lesquelles elle n'est plus mariée. Est-elle veuve? Est-elle répudiée? Et puis alors maintenant, en plus, elle vit avec un homme avec qui elle n'est même pas mariée. Donc elle n'est pas très fréquentable. Elle a probablement même honte d'elle-même. Donc elle sort au moment où tout le monde rentre. Même si elle est en pleine lumière, eh bien elle sort au moment où tout le monde rentre. Heureusement qu'elle sort à cette heure-là, parce que c'est bien à cette heure-là que Jésus, eh bien, se pose, tel quel, au bord du puits, parce qu'il vient de voyager, il arrive de Jérusalem, il va vers la Galilée, un peu au nord, et il est là. Il est fatigué, nous dit-on. Ainsi, la rencontre est possible. Jésus est fatigué, il est en suqué, il se pose. En fait, on nous dit la présence silencieuse avec son poids de fatigue humaine du Christ dans son humanité. Il a soif, mais il n'a rien pour puiser. Le puits est profond, nous l'avons entendu, donc sans rien pour puiser, eh bien, il ne peut avoir de l'eau. Et il va faire cette demande à la femme, « Donne-moi de l'eau ». Finalement, tout est possible par cette première demande. Il a soif et il demande. Et c'est le début d'une conversation qui va se jouer également sur le donnant-donnant. Plus tard, c'est la femme qui va lui demander de l'eau. Et la femme, pourtant, au lieu de répondre à sa demande, d'ailleurs elle y répondrait peut-être, mais lui va l'amener ailleurs entre-temps, s'étonne de sa demande. Comment un juif peut accepter quoi que ce soit d'un samaritain, pire d'une samaritaine? La réponse de la femme va déclencher aussi la suite qui vient bousculer ce qui aurait semblé évident. À peine la femme pourrait accéder à sa demande que Jésus l'emmène ailleurs. Mais je voudrais que nous nous posions une question. Pourquoi Jésus demande-t-il de l'eau? C'est vrai ça. Pourquoi il demande de l'eau à la femme alors qu'après il va lui dire que finalement lui il est la source d'eau vive? Eh bien, plusieurs explications à ça. Je vous en propose trois, vous en ferez ce que vous voulez. Si vous en avez d'autres, je suis preneuse, il n'y a pas de problème. La première, à mon avis, peut-être la plus simple, la plus évidente, c'est parce que Jésus, dans son humanité, souffre. Il a marché longtemps, jusqu'au soleil qui est au zénith. Il a, comme nous, bien sûr, besoin de cette eau. Il a soif. Et sa soif symbolise aussi son humanité. Certes, eh bien, l'eau qu'il donne symbolise aussi la soif spirituelle, mais cette dernière n'efface en rien la soif humaine. Et je voudrais quand même insister un peu là-dessus. C'est que, eh bien, on ne peut pas nourrir ou abreuver les gens juste avec une parole, même si c'est la parole de Dieu. Il faut aussi, et d'abord, assouvir, eh bien, donner à manger, à boire à nos corps. Vous me direz, enfin, ceux qui me connaissent et qui savent que je viens de l'armée du salut, savent qu'on dit toujours soupe, savon, salut. Et c'est vrai que bah, soit on parle à des gens qui ont très soif, et alors on leur bourre le crâne, ce qui est quand même pas terrible, on arrive à en faire ce qu'on veut, eh bien, soit ils ont tellement soif qu'ils n'entendront pas, je ne sais pas, mais eh bien la première chose à faire, c'est de donner à boire. Eh bien lui aussi, il a besoin de boire. Il nous rappelle que cette eau H2O, eh bien, elle est indispensable. Elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante, c'est ce qu'il va nous dire ensuite. L'eau permet la survie, mais permet-elle la vie en esprit et en vérité? Ça, c'est la première explication. La deuxième, eh bien, c'est que finalement, il engage le dialogue. S'il s'était tu, là, au bord de cette margelle, peut-être qu'il aurait eu de l'eau plus tard, quand les disciples vont revenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il s'était tu, rien ne se serait passé. Alors, il engage le dialogue. Lui, le juif, va parler à la Samaritaine. Et c'est de l'étonnement de la femme, de cette réflexion où elle lui dit « Comment, toi, un juif, tu me demandes quelque chose à moi, une Samaritaine ?» Eh bien, que petit à petit, la femme va se mettre en route. Elle va avoir une reconnaissance d'elle-même. D'abord, Jésus va commencer par l'interroger sur qui elle est et lui rappeler ses cinq maris. Elle va l'accepter. Elle va accepter cela. Et puis ensuite, Jésus va lui dire que finalement, peu importe où on adore Dieu, cela n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est l'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a plus de lieu pour adorer Dieu. Il y a simplement une manière pour adorer Dieu. Une manière qui nous permet de nous présenter devant lui, en esprit et en vérité. Et c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle reconnaît en effet qu'elle a eu 5 maris, que probablement elle a une vie pas si bien que ça, une vie dissolue comme on dirait. Mais là, elle-même va pouvoir creuser en elle-même et chercher au fond d'elle toute la souffrance de cette vie. Et puis Jésus, en gommant les distinctions entre les Juifs et les Samaritains, va lui permettre de trouver aussi une nouvelle identité de croyance, de croyante. Je disais qu'on passait de la défiance à la confiance. Eh bien oui, elle va pouvoir croire à nouveau, croire pleinement dans ce Dieu qui lui propose l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va faire cette demande à Jésus. Donne-moi cette eau-là. Et voilà ce qu'il lui propose donc, ses paroles. Ces paroles qui lui disent qui elle est, et ce qui va l'étonner d'ailleurs, et ces paroles qui lui disent que désormais, elle peut, elle aussi, adorer Dieu, quel que soit le lieu où elle est. Je pense qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'eau ? Eh bien, c'est une manière, l'eau vive, c'est une manière de se reconnaître pécheur et pardonner. C'est le mouvement même de ce texte. La femme reconnaît qui elle est, ce qu'elle a fait. Et finalement, malgré cela, elle va demander cette eau et accepter et de croire elle aussi. Ça, c'est donc la deuxième explication. Jésus engage le dialogue. Mais la troisième explication, elle est un peu plus compliquée, un peu plus personnelle. Je ne sais pas si vous pourrez me suivre jusque-là. C'est que autour de ce puits se joue le mélange de l'humanité et de la divinité, du matériel et du spirituel. Parce que creuser un puits, c'est certes faire sortir de l'eau cette eau qui symbolise la spiritualité, qui symbolise même la Torah, l'enseignement. Mais en creusant un puits, on soulève de la poussière, cette poussière qui est symbole de la matière. Aller chercher de l'eau au fond de la terre, extraire l'eau sans qu'elle ne se répande n'importe où, c'est aussi une manière de mêler cette eau indispensable à notre vie spirituelle avec la poussière que nous sommes et que nous faisons en creusant le puits. Ainsi, autour de ce puits se mélange le matériel, le spirituel, au travers de symboles de l'eau vive, mais aussi du lien intime qu'il y a avec l'eau H2O, indispensable à notre vie, à notre humanité. Ainsi, Jésus a à la fois besoin de cette eau et lui-même source de l'eau vive. Il y a autour de là quelque chose qui nous dit que nous sommes en communion avec les autres lorsque nous puisons l'eau dans le puits tous ensemble, mais aussi en communion avec Dieu à travers la personne du Christ. Cette communion va donc permettre la communion aussi entre tous les humains. Elle fait tomber les barrières. Elle va permettre l'inversion des rôles parce que Jésus renverse le rôle. Le sien d'abord, c'est lui qui désormais donne à boire et qui étanche nos soifs. Celui de la femme aussi. La femme qui va de celle qui peut donner va être celle qui demande. D'ailleurs, c'est une vraie réflexion sur le savoir recevoir. En effet, il faut aussi savoir recevoir. Mais inversion des rôles, de femme cachée, honteuse, elle va se transformer en porte-parole. Elle devient le témoin de celui qui l'a libérée, de celui qui l'a libérée d'elle-même, parce qu'il a su aller au fond d'elle-même, aller puiser au fond d'elle-même et trouver que toute son existence qui était honteuse, son existence sentimentale qui était cachée, cette existence désormais, lui permet de vivre malgré tout et contre tout. Le puits profond de sa vie, celui de ses amours successifs, de ses espoirs déçus, de ses échecs, est désormais grand ouvert. Et malgré cela, elle peut recevoir cette eau vive. Ainsi, le puits béant, vide, de nos vies, parfois nous sommes totalement à sec, nous avons cette promesse que l'eau vive que Dieu nous offre, pourra nous désaltérer. Terre aride, desséchée, sans eau, nous dit le psaume. Son être, nous avons soif, soif de Dieu, et Dieu répond par la personne du Christ en nous donnant cette eau vive. Ainsi, ce parcours nous permet de passer de la méconnaissance à la reconnaissance. La reconnaissance de la femme, son origine désormais n'est plus un obstacle. Son comportement, son mode de vie, non plus. Est-elle veuve, est-elle répudiée 5 fois, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. Désormais, cela ne la coupera pas des autres. Enfin, elle peut vivre au grand jour. Elle peut s'assumer. Jésus, en la faisant parler en vérité, la délivre de sa honte et de sa culpabilité. Pour terminer, je voudrais insister sur la femme qui dit « Seigneur, donne-moi cette eau-là ». Ici, dans ce texte, en fait, chacun vient demander à l'autre ce qu'il n'a pas. Jésus demande à la femme de lui donner à boire. Ce qu'il n'a pas, eh bien, c'est le récipient, la jarre, le vase pour puiser de l'eau. Et par contre, la femme, elle, ce qu'elle veut, c'est l'eau vive. Et puis, alors, autour de ce puits, lieu de féminité et de fécondité, où d'ailleurs il ne nous est rien dit des enfants de cette femme, parce qu'avec 5 maris, presque 1/6, elle avait peut-être des enfants, mais on n'en sait rien. Et en tout cas, si elle n'en avait pas, c'était encore une raison de plus d'exclusion. Mais elle a la fécondité, la vraie fécondité, celle de sa parole en vérité. Et c'est cela aussi qui est si essentiel dans les Écritures. C'est à travers la parole de cette femme qu'aujourd'hui aussi nous sommes rassemblés ici. Des témoins ont été nombreux, elle en fait partie. Et parce qu'elle a été libérée et qu'elle a été capable de parler, d'aller témoigner, d'aller annoncer, que nous pouvons encore, nous aussi, recevoir cette source d'eau. Enfin, la femme, à la fin, on nous le dit, alors la femme laisse là sa jarre et s'en alla dans la ville et dit aux gens, il a dit tout ce que j'avais fait. Et c'est à travers cela, parce qu'il la reconnaît telle qu'elle est et qu'il l'accepte telle qu'elle est, qu'elle ouvre la voie et pose cette question, il est peut-être le Christ. La femme laisse sa jarre, la jarre qui sert à puiser l'eau. Elle n'en a plus besoin désormais. La jarre, comme si, eh bien, cette jarre rappelait sa vie ancienne. Désormais, elle n'en a plus besoin. Mais je pense que c'est aussi parce que désormais, elle-même est le vase duquel pourra sourdre cette eau vive. Parce que le Christ le dit, il le dit à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » En effet, si nous mettons notre confiance en Dieu, notre confiance dans ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, nous aussi, nous pouvons être des vases desquels eh bien, jailliront cette eau vive que nous pourrons répandre autour de nous, cette parole que Dieu nous a offerte et que nous ne pouvons garder pour nous. Nous sommes appelés, nous aussi, comme la femme, à témoigner, à questionner ceux qui sont autour de nous et à nous présenter ainsi dans le monde, en esprit et en vérité. Amen.